الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 21 من شهر شعبان عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نجلس للمرة السادسة في قراءة وشرح هذا الكتاب المبارك كشف الشبهات لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 17 mai 2017 et l'on se retrouve pour cette sixième assise, ce sixième cours de l'étude du livre « Le dévoilement et la dissipation des ambiguïtés » de son auteur, l'imam Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lors de notre dernière assise, nous avons vu que le prêcheur au tawhid, celui qui invite les gens à la croyance authentique, pure et saine, doit être armé de savoir, de la connaissance du Coran, de la Sunna. Il doit être aussi connaisseur des ambiguïtés émises par les adeptes du faux. Nous avons pu voir ce qu'a dit l'aimable Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah, lorsqu'il dit que pour pouvoir appeler à la vérité et faire face à quelqu'un qui appelle au faux, il nous faut deux choses. Ithbatu dalili qawlihi. Prouver, il nous faut deux choses. La première, c'est la preuve de ce que l'on affirme, nous. Quand tu vas appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas clarifier aux gens les erreurs dans lesquelles ils sont, tu auras besoin de preuves, de dire « قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » et tu seras certainement amené à écouter de la part de ces gens-là des ambiguïtés pour répondre à ton appel à Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, tu auras besoin de la deuxième chose qui est « إبطال دليل خصمه » annuler l'argumentation de l'adversaire. Al-Sheikh ibn al-Uthaymin rahimahullah a dit dans un passage de son commentaire « وَهُنَا أَمْرٌ يَجِبُ التَّفَطُّنُ لَهُ » Mais il y a une chose ici qu'il faut absolument remarquer. Puis il va détailler en disant qu'il s'agit du fait que on ne peut pas entrer comme cela dans un débat. On ne doit pas chercher à entrer, et on ne peut pas entrer dans un débat sans connaître les arguments que va nous donner celui qui va nous répondre. Car sinon, le résultat peut être catastrophique. Donc tu ne dois pas t'engager. De toute manière, Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et de la Jama'a et du groupe, comme nous l'avons étudié dans le livre Usul Sunna, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad rahimahullah, ne cherchent pas le débat. Simplement, ils prêchent au tawhid. Si dans leur chemin, une chose est la cause que du fait qu'ils vont ou qu'il va entendre des ambiguïtés, alors il y répondra. À ce moment-là, il aura besoin de ces deux choses, de connaître les preuves de ce qu'il affirme et de savoir annuler l'argumentation de celui qui s'oppose à lui. Ça, c'est pour résumer le cours de la dernière assise, où l'auteur, rahimahullah, a appuyé sur le fait que la véritable crainte pour le monothéiste est d'emprunter le chemin sans qu'il ne soit armé, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a pourvu du Coran. Puis l'auteur, rahimahullah, dit: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. Tout argument exposé par un égaré trouve sa réponse et sa réfutation dans le Coran. Ça, c'est ce que le prêcheur au tawhid doit savoir. Qu'à chaque fois que quelqu'un qui appelle à un égarement, à une ambiguïté, eh bien, il y a dans le Coran la réponse à cet égarement et à cette ambiguïté. Il n'y a pas une seule ambiguïté sans que dans le Coran, on ne trouve la réponse. Seulement, ce sont les gens qui sont variés et différents dans leur compréhension du Coran et dans leur compréhension des versets ou des textes qui sont une réponse aux ambiguïtés. Cela demande du savoir. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset: il ne t'apporte aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Certains exégètes, les exégètes sont ceux parmi les savants qui ont commenté le Coran et l'ont expliqué, et leur livre, on l'appelle le tafsir. Certains exégètes disent que ce verset est valable de manière générale contre tout argument énoncé par les égarés jusqu'au jour de la résurrection. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullahu ta'ala, cite dans le commentaire de ce passage qu'effectivement, chaque personne apportant avec elle une ambiguïté ou alors quelque chose de faux, peu importe l'ambiguïté que la personne diffuse ou répand, dans le Coran, il se trouve la réfutation et la clarification de cette ambiguïté. Il y a dans le Coran le dévoilement et la dissipation de cette ambiguïté. يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ وَيُوَفَّقُ لَهُ مَنْ يُوَفَّقُ وَيَجْهَلُ ذَلِكَ مَنْ يَجْهَلُ. Celui qui connaîtra cet argument l'aura connu et aura eu l'assistance d'Allah. Et celui qui l'ignore, l'ignorera. C'est-à-dire qu'il y a ce dont on a besoin dans le Coran. Certains vont être assistés par Allah, Azza wa Jal, et avoir son aide, ils vont comprendre cela. D'autres ne vont pas l'avoir. Ils ne vont pas avoir l'aide d'Allah, Azza wa Jal, et ne comprendront donc pas que dans tel verset, il y a la réponse à telle fausse parole répandue par les gens du faux. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ أي بِحُجَّةٍ أو بِشُبْهَةٍ وَهَذِهِ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفِي فَشَمِلَ جَمِيعَ مَا يُؤْتَى بِهِ. Allah Azza wa Jalla a dit: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ. Et il ne t'apporte aucune parabole. C'est une traduction approximative. Et ce qui est voulu par le terme mathal, qui est le vrai terme en arabe, chaque fois que ces gens-là apportent ce que l'on appelle un mathal, qui est traduit approximativement seulement par parabole, il s'agit ici d'un argument ou d'une ambiguïté apportée par les gens du faux. Et Allah Azza wa Jal nous montre qu'à chaque fois que les gens du faux apportent ce qui pense être pour eux un argument et ce qui est une ambiguïté, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit: فالقرآن كفيل برد أي باطل كان. Le Coran est garant de réfuter toute chose fausse, sans exception. لكن الأفهام تختلف بالقوة والضعف. Mais ce sont les compréhensions des gens qui sont diverses et variées. certaines personnes ont une bonne perception ou alors une bonne compréhension des textes. C'est pour cette raison qu'ils vont être rapides pour déduire du Coran et de la Sunna les arguments pour prouver leur dire. Pendant que d'autres personnes vont être lentes ou ne vont pas comprendre certaines choses du Coran et de la Sunna. فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره ويعطى بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره. Certaines personnes reçoivent une force de compréhension, une assistance d'Allah que d'autres n'ont pas eue. Et c'est ça qui va faire la différence entre le savant et l'ignorant, entre le talibul ilm, le demandeur de savoir, l'étudiant en science, et celui qui est ignorant. Et l'auteur avait précisé juste avant cela que Allah nous a envoyé le Coran et en a fait quelque chose qu'il a appelé comme tibyana li kulli shay, clarifiant toute chose. Alaykoum salam. Effectivement, le Coran clarifie toute chose sans exception, comme nous l'avons dit. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله دي إن تبيان القرآن للأشياء قسمان. La clarification du Coran pour toutes les choses se divise en deux catégories. C'est-à-dire que le Coran a clarifié toutes choses de deux manières. La première, أولا أن يبين الشيء بعينه. Premièrement, il y a des textes dans le Coran qui clarifient la chose en elle-même. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous interdit telle chose, lorsqu'il nous ordonne d'accomplir la prière, lorsqu'il nous montre les détails de certaines adorations, هذا تبيان للشيء بعينه. C'est une clarification de la chose en elle-même. La deuxième chose, التبيان بالإشارة إلى موضع البيان. التبيان بالإشارة إلى موضع البيان. C'est que le Coran clarifie certaines choses en orientant vers ce qui nous permettra de comprendre les choses correctement. Soit Allah Azza wa Jal nous clarifie directement la chose, soit il nous dirige vers le chemin, nous amenant au final à clarifier la chose. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ignorez, si vous ne savez pas. Et on raconte qu'un chrétien s'est présenté à un musulman et lui a dit: vous prétendez que le Coran clarifie toute chose. Cette histoire est racontée par le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah. Vous prétendez que le Coran clarifie toute chose. Et ces gens étaient réunis dans un restaurant. Le chrétien a dit aux musulmans: eh bien, je te demande de me montrer dans le Coran où est-ce que l'on clarifie comment faire tel et tel repas. Le musulman a appelé le restaurateur et lui a dit: comment faire tel et tel repas? Le restaurateur lui a dit: avec tel et tel ingrédient et de telle et telle façon. Alaykoum salam. Le musulman s'est retourné vers le chrétien et lui a dit: c'est exactement ça que nous dit le Coran. Le chrétien lui dit: où ça? Le musulman lui dit: Allah a dit: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc soit le Coran nous clarifie directement la chose, soit le Coran nous oriente vers la réponse à nos questions. Donc de tout, dans les deux cas, en réalité et finalement, le Coran nous clarifie toute chose. Et le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chaque fois que les gens apportent des ambiguïtés, ou ce qu'ils pensent être pour eux un argument, le Coran apporte une réponse. Et certains exégètes, comme nous l'avons dit, ont noté que ce verset est valable de manière générale contre tout argument énoncé par les égarés jusqu'au jour de la résurrection. Mais c'est la compréhension des gens, comme nous l'avons dit, qui est variée. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a pris l'engagement dans ses différentes réfutations et réponses qu'il a faites aux gens du faux, qu'à chaque fois que quelqu'un du faux appellera à du shirk, à une innovation, en prenant pour preuve, selon lui, un verset du Coran ou un hadith de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il fera de ce verset et de cette preuve un argument contre celui qui a appelé à ce faux. Et le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a cité quelques exemples qui étaient utilisés par l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah, comme la parole d'Allah azza wa jal, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, les regards ne l'atteignent pas mais lui atteint les regards. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim n'a pas détaillé de quoi il s'agit, c'est ce que je vais vous dire. Il s'agit ici de l'ambiguïté émise par les Mu'tazila et d'autres, comme leur suiveurs parmi les contemporains, comme ce que l'on appelle Al-Ibadiyya, et d'autres aussi, qui ont dans leur croyance qu'il est impossible de voir Allah, Azza wa Jal. On ne parle pas de ce bas monde, on parle dans l'au-delà. D'après eux, on ne pourra pas voir Allah dans l'au-delà. Et la vision d'Allah dans l'au-delà, min usul i'tiqad ahl as-sunnah wal jama'ah, est une base à l'unanimité des savants de la sunna, dans un fondement dans la croyance du tawhid et des gens de la sunna. Ils ont pris pour argument ce verset et ont dit qu'Allah azza wa jalla a dit la tudrikuhu al-absar, les regards ne l'atteignent pas, wa huwa yudriku al-absar, et lui atteint les regards. Ils ont dit cela veut dire qu'on ne peut pas voir Allah et que lui nous voit. Ibn Taymiyyah rahimahullah a répondu à ces gens-là et leur a dit nafyul idrak laysa nafyur ru'ya. Il leur a dit Allah azza wa jalla a nié ici ce que l'on appelle al-idrak. Al-idrak, c'est le fait de percevoir la chose dans sa totalité, exactement comme elle est. Et c'est cela qui a été nié par Allah ici, Azza wa Jal. Et ce qui a été nié n'est pas la vision. Et ce qui est voulu par le verset, ay la nuhitu Allah Azza wa Jal. On ne peut pas percevoir totalement Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne le verra pas. On le verra bi'idhnillah wa nas'alu Allah Azza wa Jal bi'imanina bi'ru'yatihi. On lui demande par la foi que l'on a en cette vision qu'il nous l'accorde, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ce qui est voulu, c'est le fait qu'on ne pourra pas le voir totalement, subhanahu wa ta'ala, car il est immense. لِأَنَّهُ عَظِيمٌ subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنَّنَا سَنَرَاهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَهَؤُلَاءِ لَنْ يَرَاهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Mais on le verra, Inch'Allah. Simplement, quand on le verra, on ne pourra pas l'atteindre. On ne pourra pas le percevoir totalement. Et c'est ce qui est voulu par ce verset. Ce verset est donc une preuve qu'on verra Allah. Car ce verset a nié le fait qu'on le verra totalement. Donc on le verra. Subhanahu wa ta'ala. Et aussi, la parole d'Allah Azza wa Jal, laïsa kamit lihi shay. Rien n'est pareil à lui. En prenant ce verset, les gens du faux ont nié des attributs d'Allah. Et ont dit, Allah ne voit pas. Allah n'entend pas. Allah ne fait pas miséricorde. Pourquoi? Parce que si l'on dit qu'Allah voit, entend, fait miséricorde, cela reviendrait à établir une similitude entre lui et ses créatures. C'est comme si on avait dit qu'Allah Azza wa Jalla voit, entend, comme ces créatures. Ils ont dit, la preuve est sa parole. Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est pareil à lui. Rien ne lui est similaire. La réponse, où est-elle? Dans la fin du verset. Allah Azza wa Jalla a dit, wa huwa sami'ul basir. Et il est l'audient, le clairvoyant. Donc tout comme rien n'est pareil à lui, ou certes rien n'est pareil à lui Azza wa Jal, mais cela ne veut pas dire, comme vous vous l'avez dit, qu'il n'a pas ses attributs. Cela veut dire qu'il a ses attributs et qu'ils sont tellement parfaits que rien ne lui ressemble, ce verset. Donc une preuve qu'Allah a, Azza wa Jal, ses attributs. Donc chaque fois que quelqu'un de l'ambiguïté ou du faux, Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih khayra ma fiha wa ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih sharri ma fiha wa ma umirat bih. Chaque fois que les gens amènent ces arguments, eh bien ces arguments sont des preuves contre eux et pas pour eux. Puis l'auteur rahimahullah a dit wa ana adhkuru laka ashiya mimma dhakara Allah fi kitabih jawaban li kalamin ihtajja bihi المشركون في زماننا علينا. Il continue en disant, je vous cite ici quelques instances de ce qu'Allah a mentionné en réponse aux arguments des polythéistes de notre époque. Il parle de son époque, mais ils sont suivis par ceux de la nôtre. L'argumentation contre ces gens-là se fait par deux manières, et c'est ce que l'on va détailler, inshallah. Ici, il entre dans le vif du sujet. Et maintenant, après avoir fait son introduction bénéfique, comme l'a décrite le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, où il cite la réalité de la religion des messagers et la réalité de la religion des polythéistes, après cela, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a fait face à nombreux prêcheurs du faux, car naturellement, ils sont attachés à leur faux et voient que les gens commencent à le suivre, surtout avec son livre Kitab al-Tawhid et l'Usul al-Thalatha, les trois fondements. Les gens commencent à voir clair. Les gens commencent à voir l'islam, tout simplement. Ils commencent à suivre cet islam. Vu que les gens du faux se retrouvent dans une situation où la terre leur devient étroite et exiguë malgré sa largesse, ils ont dû inventer des ambiguïtés. Et c'est là que l'auteur, rahimahullah, va répondre à ces ambiguïtés qui nous seront bénéfiques, inshallah ta'ala. Il dit, « Fanaqul, jawabu ahli al-batil min tariqain, mujmalin wa mufassal. » أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Autant rahimahullah dit, l'argumentation contre ces gens-là, contre les gens qui prêchent au faux, se fait par deux manières, sommaire ou alors global et détaillé. C'est-à-dire que quand les gens du faux vont appeler à leur faux, il y aura deux façons de répondre. Une façon générale. Cette façon générale est facile d'accès pour tout le monde. Et une façon détaillée. C'est celle qui est connue par Talibul Ilm, celui qui étudie la science. Il dit, quant à la façon générale, quant à la façon générale, elle est quelque chose de très important, la plus bénéfique et la plus utile pour celui qui la comprend bien. Il va te donner ici quelque chose qui est extrêmement important et qui te facilite la manière de répondre à toute personne, à toute époque, à tout endroit, qui t'apportera une ambiguïté dans le tawhid, dans la sunna, dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une façon de répondre qui est facile d'accès pour tout le monde. Et une autre qui a été donné à ceux qui recherchent la science en détail. Voyons de quoi on parle lorsque l'on parle de la première, qui est l'argumentation globale. Mais bien sûr, avant d'entrer dans cela, Al-Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit « Mujmalun amun li kulli shubha ». La première argumentation, c'est l'argumentation globale. « Salihun li kulli shubha » qui est utile pour toute ambiguïté. La deuxième, mufassal, détaillée. وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة. Et c'est ainsi qu'il incombe aux gens du savoir, lorsqu'ils sont amenés à faire face aux gens du faux, أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يريده الملبسون المشبهون. Le fait d'avoir d'abord une réponse globale, une argumentation simple et globale, que la personne va d'abord amener, avant d'entrer en détail dans les ambiguïtés une par une réponse globale qui va englober toutes les ambiguïtés qui sont susceptibles d'être citées par celui qui appelle au faux. C'est comme si tu lui portais un coup dès le début, avant même qu'il ne commence à détailler ses ambiguïtés les unes après les autres, il y a une réponse qui est globale. Et cette réponse est bonne pour toutes les ambiguïtés qui vont venir. Tu l'as déjà affaibli. Ensuite, après cela, pour chaque ambiguïté, il y aura une réponse. Et là, tu ne lui laisseras plus aucun souffle. وَيَأْتِي بِجَوَابٍ مُفَصَّلٍ لِكُلِ مَسْأَلَةٍ بِعَيْنِهَا. Voyons un peu ce que dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah. L'argumentation globale, c'est quelque chose d'extrêmement important pour celui qui l'aura compris. L'iman aqalaha wa fahimaha wa arafaha, et qui l'aura connu. Amma man kanat tajri ala lisanihi faqat, fa inna hadha al-jawab la yakunu lahu hujja. Quant à celui qui ne sait que le réciter et qui n'en connaît pas le sens, cela ne sera pas pour lui un argument. وإنما قال ذلك في المجمل أي أنه الفائدة الكبيرة لأنه في الحقيقة يصلح جوابا لكل شبهة. Pourquoi est-ce que l'auteur a dit que cette argumentation globale dont on va parler et que vous allez comprendre tous inshallah, pourquoi est-ce qu'il a dit que cette argumentation globale est la grande faïda, la grande leçon à retenir pour celui qui la comprend? Car en réalité cette argumentation peut être une réponse à toutes les ambiguïtés sans aucune exception. Et ainsi, même l'individu de la masse peut répondre aux ambiguïtés avec cette réponse. Quelle est-elle? La parole d'Allah Azza wa Jal. هو الذي أنزل عليك الكتاب. Il est celui qui a fait descendre vers toi le livre. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Ce livre contient des versets explicites. Ils sont la base du livre. Et d'autres versets qui prêtent à interprétation. D'autres versets qui sont ambigus. L'auteur dit, le commentateur, les versets clarifiés. Allah Azza wa Jal nous ordonne trois choses. C'est-à-dire, dans le Coran, il y a des versets qui sont explicites. Ils ne prêtent pas à interprétation. Ils sont clairs. Wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. Accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Est-ce que cela prête à interprétation? Est-ce que cela demande beaucoup de questions? Non. Il y a d'autres versets qui, pour une ou plusieurs personnes, prêtent à interprétation. C'est-à-dire que ce sont des versets qui demandent plus de savoir pour les connaître. Cela ne veut pas dire qu'ils sont ambigus pour tout le monde. Ils sont ambigus pour les gens qui ne connaissent pas, les gens qui n'ont pas le savoir. Quel est notre devoir, nous les musulmans, face aux versets qui sont explicites? On appelle ça l'ayat ou l'muhkama, ou l'muhkamat. Trois choses. Awalan, الإيمان به أنه من عند الله. Avoir foi en ces versets et qu'ils viennent d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, معرفة معاني, la connaissance des sens de ces versets. Troisièmement, العمل به, leur application. Prenons l'exemple de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui nous dit وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Allah vous ordonne de remettre les dépôts à leurs ayants droit. Ce verset est muhkam. Il est explicite. الْأَمْرُ بِرَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا وَعَدَمِ خِيَانَتِهَا. L'obligation de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Quelqu'un vient te confier un trésor, un bien, une somme d'argent, quelque chose, il te fait confiance, il le dépose chez toi, tu as l'ordre de lui rendre au moment venu. Complètement. C'est explicite. Quel est mon devoir devant ce verset qui est explicite? Al-Imanu bihi annahu min indillah. Je dois avoir la foi que cela vient d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, ma'rifatu ma'ani. Je dois connaître le sens de ce verset. Troisièmement, le but, al-amalu bihi, l'appliquer. Il y a donc des versets qui sont explicites et d'autres qui prêtent à interprétation. Les versets qui sont explicites sont décrits par Allah Azza wa Jal, hunna ummul kitab. Ils sont la mère du livre. Ummul kitab, ummu shay asluhu alladhi yurja'u ilayhi 'inda al-ishtibah wa al-ishkal. La mère de la chose, c'est-à-dire la base vers laquelle on revient lorsqu'il y a une quelconque problématique. Lorsqu'il y a une quelconque problématique. Comme l'enfant qui revient tout le temps vers sa mère. C'est sa base pour lui. Il y a des versets dans le Coran qui sont la base. Si certains sont ambigus, on revient directement à ceux qui sont explicites et clairs. Wa ukharu mutashabihat, ay mutashabihat ad-dilala. Et d'autres sont ambigus, c'est-à-dire dans ce qui en est voulu pour certaines personnes. Laysat dilalatuha wadihatan mithl al-muhkamat. Leur sens n'est pas aussi clair que ceux qui sont explicites. Quel est notre devoir devant les textes qui sont ambigus? La réponse: awalan al-imanu biha annaha min 'indillah anzalaha 'ala al-'ibad. La foi que ce sont des paroles, des versets qui viennent d'Allah et qui ont été révélés à ses serviteurs. Liyu'minu biha, afin qu'ils aient foi en ces paroles. Deuxièmement, an la tufassara bima yukhalifu al-muhkam, bal turaddu ila al-ummi wa huwa al-muhkam wa tufassaru bih. On ne doit pas donner une interprétation à ces versets qui est contraire aux versets qui sont explicites et qui sont clairs. Au contraire, ce que l'on doit faire lorsqu'il y a des versets qui peuvent prêter interprétation, qui nous paraissent ambiguës, se diriger directement vers les versets qui sont explicites. Et on va voir des exemples ici. On est en train d'introduire en dehors de cette argumentation. Ensuite, les gens vont se diviser en deux face à ces versets, clairs et ambigus. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ. Quant à ceux dans le cœur desquels il y a une déviance, c'est-à-dire un penchant vers le faux. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ. Ces gens-là suivent ce qui y paraît ambigu parmi les versets. C'est-à-dire, يَطْلُبُونَ الْمُتَشَابِهَ فِي الدِّلَالَ وَيَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ. Ils ne cherchent que les versets qui prêtent à interprétation et délaissent ceux qui sont explicites. وَيَصْدِفُونَ عَنِ الْوَاضِحِ لِكَوْنِهِ يَهْدِمُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ وَيَفْضَحُهُمْ. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Ils font dévier les gens par les ambiguïtés de ce qui est clair afin que les gens suivent le faux qu'elles ils appellent. C'est ça qui est voulu. C'est ça qui est voulu. Ils veulent faire dévier les gens de ce qui est clair et explicite pour les amener au final à leurs ambiguïtés. فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه. et l'ignorant, quand il voit un prêcheur au faux lui amener une ambiguïté, cela va le déstabiliser. Cela va le déstabiliser. Il ne va pas savoir comment agir. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ أَهْلَ الْإِهْتِدَاءِ وَالْإِسْتِقَامَةِ يَتَّبِعُونَ الْمُحْكَمَ وَيَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمَ. Cela montre que les gens de la droiture et du droit chemin, eux, prennent les versets explicites pour expliquer ceux qui paraissent ambigus. Et c'est comme cela qu'ils agissent. فَيَقُولُونَ لِمَا عَدَلْتَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ هَذَا وَلَا هَذَا. Ils disent aux gens du faux, pourquoi, étrangement, pour argumenter, tu cites des versets qui prêtent à interprétation, alors que tu délaisses d'autres versets qui sont explicites et qui interdisent clairement ton acte. C'est comme ça qu'ils agissent. Et ils ne sont pas comme les gens de la déviance qui recherchent à égarer les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un récit qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam muslim, quand vous voyez ceux qui suivent les ambiguïtés, lorsque vous voyez ceux qui suivent les ambiguïtés, les versets à équivoque, ceux-là sont ceux qu'Allah a nommés, prenez en garde, prenez-les en garde. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les prêcheurs au faux, pour qu'on dise à notre époque qu'il ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre en garde contre les prêcheurs au faux, et qu'il faut se contenter de mettre en garde contre le faux et non pas les prêcheurs. Non, ça c'est faux, et ça il faut mettre en garde aussi contre ça d'ailleurs, car c'est un égarement de la sunna. Seulement, il faut le faire avec science, bi'ilmin wa adlin, avec science et avec justice. Tout comme il ne faut pas délaisser cela, il ne faut pas aussi le faire d'une mauvaise manière. Donc il faut étudier et faire avec savoir et avec science. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit fahdharuhum, prenez-les en garde. Pourquoi? Afin qu'ils ne vous fassent pas dévier du chemin de la vérité comme eux-mêmes ont dévié. Il a mis en garde contre eux, sallallahu alayhi wa sallam, contre leurs assises, contre leur écoute, et a montré que cela est une maladie incurable, destructrice. Et l'homme ne doit pas s'appuyer sur ce qu'il a de connaissance et se dire « je suis à l'abri, je peux écouter ». Je peux voir combien de gens sont tombés dans l'égarement. Combien de gens ont dit, non, moi je connais ma croyance, alhamdoulillah, je connais, je vais simplement par curiosité voir ce qu'ils disent. Et à la fin, ils ne sont pas comme eux, ils sont pires qu'eux. Et c'est pour cela que il faut faire attention. بَلْ يَبْعُدُ عَنْ أَهْلِ الزَّيْرِ وَيُجَانِبُهُمْ وَلَوْ مَعَهُ حَقْ. Mais il faut s'éloigner des gens de la déviance, même si l'on a avec nous la vérité. فَإِنَّ السَّلَفَ كَانَ هَذَا شَأْنَهُمْ وَيَسْتَدِلُّونَ بِالْحَدِيثِ. Ainsi était l'état des pieux prédécesseurs. وَهَذَا حُكْمُ أَهْلِ الْبَاطِلِ. Et ceci est le jugement des gens du faux, qu'il faut s'éloigner d'eux, afin que le cœur ne soit pas entaché par leurs ambiguïtés. On ne prête pas l'oreille au bid'a, au shirk, aux gens de l'égarement. On écoute pour voir, on écoute par curiosité, simplement pour voir. Subhanallah. Est-ce que tu es capable d'introduire en toi un venin juste pour voir l'effet que ça va te faire? Comment es-tu capable d'introduire dans ton cœur des ambiguïtés qui plus tard vont détruire ton dîn, vont détruire ta religion avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour voir par curiosité? Allahu Akbar. Comment la curiosité a été utilisée par Shaitan pour égarer beaucoup de gens. Et les gens du faux ne baissent pas garde et n'arrêtent pas leurs efforts afin de faire dévier les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah dit: فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم والتحذير منهم أيضا. La mise en garde ici comprend la mise en garde contre la voie de ces gens-là, mais aussi la mise en garde contre ces gens-là. Subhanallah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit فَحْذَرُوهُمْ, prenez-les en garde. Tout prêcheur au fond, le prophète nous met en garde contre lui sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أدي فاحذروهم فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة. Il y a dans cette parole une mise en garde contre les savants de l'égarement et les innovateurs. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne cela. Simplement, cela doit être fait avec science et justice. Le but n'est pas d'insulter. Le but n'est pas de chercher à montrer que tu es supérieur. Le but est de montrer la vérité qu'Allah aime pour que les gens la suivent, afin de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas question d'orgueil. Il n'est pas question de vouloir être meilleur, comme beaucoup de gens disent. Je suis pressé d'avoir le savoir pour pouvoir les mettre KO. Combien on entend? Non, ça c'est faux. Cette niya est fausse. Cette intention est fausse. On est pressé d'avoir le savoir pour appeler les gens à Allah, pour montrer le haq aux gens, pour que le haq soit suivi et soit répandu sur la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas pour être plus fort que quelqu'un, pour être aimé d'Allah, pour satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la sunna te rendra toujours plus fort que les gens du faux. Walhamdulillah. Maintenant, l'auteur va nous donner un exemple. Mithal ou dhalik, ce qui va clarifier ce sujet. Idha qala laka ba'du al-mushrikin, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, aw anna ash-shafa'ata haqq, aw anna al-anbiya'a lahum jahun 'inda Allah, aw dhakara kalaman lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفهاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. L'auteur rahimahullah continue. En exemple à cela, les polythéistes vous diront, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, traduction approchée, n'est-ce pas que les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, et que l'intercession est en fait juste, car les prophètes ont un statut particulier auprès d'Allah. Ils peuvent aussi évoquer des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les interpréter de manière à leur donner un sens erroné qui échappe à votre compréhension. Lorsque tu vas appeler les gens au tawhid, tu vas leur dire qu'il n'est pas permis d'adorer l'awliya, les saints, les pieux, les tombeaux, les anges, etc. Ils vont te dire, Allah a dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. N'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont aucune crainte à avoir, ni à être attristés? Ils vont te dire aussi, et l'intercession existe, elle est dans le Coran, elle est dans la Sunna. Ils vont te dire que les prophètes ont un rang chez Allah. Et tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Et on le retrouve dans des textes. Ils vont te citer une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour argumenter et dire qu'ils ont raison. Et tout ça, c'est vrai aussi. Mais en réalité, toi, tu ne comprends pas que toutes ces paroles qu'il te cite ne sont pas des preuves qui justifient son action à lui. Mais comme tu n'as pas étudié et tu n'as pas les détails, tu vas voir quelqu'un qui adore une tombe, tu lui dis tu n'as pas le droit de faire ça. Il te dit je lui demande la shafa'a, l'intercession. La shafa'a, Allah l'a cité dans le Coran, les gens pieux vont intercéder pour les autres. Allah a dit dans le Coran que les gens pieux ont un haut degré chez lui, ils n'ont aucune crainte à avoir, ils n'ont pas à être attristés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "U'titu shafa'a", on m'a donné l'intercession. Donc je ne fais rien d'autre que lui demander. Et toi tu ne sais pas la réponse détaillée que l'on va voir plus tard inchallah à cette ambiguïté. Mais tu sais une chose. Tu sais une chose, quelle est cette chose? Que donc l'auteur rahimahullah dit les interpréter de manière à leur donner un sens erroné qui échappe à votre compréhension. Alors dites qu'Allah a dit dans son livre que ceux qui ont au cœur une inclination, un égarement, vers l'égarement, abandonnent ce qui est évident et mettent l'accent sur les textes à équivoque. Tu dis à cette personne, écoute, je sais que ces versets sont clairs. Les versets que tu cites sont clairs. Mais ils sont ambigus pour moi. Je n'en connais pas la bonne interprétation. Une chose est sûre, c'est que j'ai vu dans des versets clairs qu'il est interdit d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Et celui que tu invoques, est-il autre qu'Allah Azza wa Jal? Il est obligé de te dire oui. Alors tu lui dis, eh bien s'il est autre qu'Allah, c'est sûr que ton explication de ce verset est fausse. Je ne la connais pas. Mais je sais qu'Allah m'a interdit d'invoquer autre que lui. Et tu es d'accord avec moi pour dire que il est autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc, soit tu dis que le Coran se contredit, et alors tu sors de l'islam, soit tu es obligé d'accepter que c'est ta compréhension de ces versets qui est fausse et erronée. Et qu'en réalité, ces versets ne sont pas une preuve pour toi. Il est obligé de te suivre. Et s'il ne te suit pas, le reste arrive dans ce livre. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à la fin du livre, il n'aura plus de souffle. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que sont le Coran et la Sunna, puisqu'ils sont la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la réponse que n'importe qui peut donner. N'importe qui. Il vient et il te dit, viens, on adore la tombe, on lui demande l'intercession. Viens demander la baraka. Le prophète a dit qu'il y a la baraka. Allah Azza wa Jal a dit que ces gens-là sont aimés d'Allah. Regarde tous les versets. Et il te cite une cinquantaine de versets. Tu dis, stop, je ne comprends pas le sens de tous ces versets. Mais il y a un verset qui est clair. Allah a dit dans le Coran, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne avec Allah. Et je vois que là tu invoques avec Allah. Donc je suis sûr que ce que tu fais est interdit et que ton interprétation de ces versets que tu prends pour preuve est fausse. Et je ne peux pas aller plus loin que cela. Ah, il ne peut plus rien faire. Après cela, et ça, c'est pour ça que Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit « Wahiya al-fa'idatul kabira ». C'est la fa'ida kabira. Et pareil pour la sunna, si on pouvait s'étendre avec la sunna. On te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose. Cela veut dire que l'on peut amener de lire le Coran de telle et telle façon. On peut lire le Coran en groupe. Il te dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Et aucun peuple ne s'est réuni dans une des maisons d'Allah. يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Ils lisent le livre d'Allah et l'étudient entre eux. Donc c'est ce que l'on fait. On s'assoit et on lit le Coran en groupe. Pourquoi tu nous blâmes? Soit tu connais la réponse et elle existe. Soit tu ne connais pas la réponse. Si tu ne connais pas la réponse, tu dis stop. Le hadith que tu cites est authentique. C'est clair. Je ne discute pas son authenticité. Mais je ne connais pas le sens. Une chose est sûre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa kulla bid'atin dalala » et toute innovation est un égarement. ce que tu fais est une innovation, alors je dis que c'est un égarement. Ensuite, la réponse à son ambiguïté, il n'y a rien de plus simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun peuple ne s'est réuni dans une maison d'Allah pour réciter le livre, pour lire le livre, sans que la miséricorde ne vienne à eux, les anges, jusqu'à la fin du hadith. Voyez, qui a dit cette parole? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyons comment il a appliqué cette parole. Tout simplement. Montre-moi qu'il a appliqué cette parole avec ses compagnons en s'asseyant en groupe. Et je te suis, car je cherche le haq. Tu ne pourras pas le faire. Donc ce n'est pas de cette façon qu'il faut le faire. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est là une faïda azima jiddan. C'est quelque chose d'immense qui te permet de repousser les shubuhat, les ambiguïtés. De dire, stop, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais je suis sûr d'une chose qui est claire, on n'a pas le droit d'invoquer autre qu'Allah, on n'a pas le droit d'innover dans la religion. D'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment quelque chose d'immense. Donc voilà comment tu dois répondre à ces gens-là. L'auteur dit, j'ai cité plus haut que les polythéistes reconnaissaient la divinité d'Allah. Non, c'est une faute dans la traduction. La seigneurie d'Allah. Reconnaissaient la seigneurie, tawhid al-rububiyya d'Allah, mais croient en même temps que les anges, les prophètes et les bien-aimés d'Allah puissent leur servir de médiateurs, d'intermédiaires, en disant, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dites de ce fait, dites que ce fait est évident, que personne ne peut contredire ou en changer le sens. Ce que vous évoquez, ô vous les polythéistes, des textes du Coran ou de la Sunna, échappe à ma compréhension. Mais j'affirme que les propos d'Allah Azza wa Jal ne peuvent en aucun cas se contredire, que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent être différents de ceux qu'Allah, de ceux d'Allah Azza wa Jal. Alors, ne les prenez pas à la légère, car Allah dit, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infime, infinie. Donc quand l'auteur dit ne les prenez pas à la légère, il parle à vous les prêcheurs du tawhid. Ne prenez pas ça à la légère car c'est immense pour détruire les ambiguïtés. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah dit que tu dois répondre à ces gens-là que moi, je ne comprends pas. Mais je sais que les gens dont les cœurs sont déviants délaissent les versets qui sont clairs et explicites, qui interdisent ces actions, et vont chercher des versets qui vont être interprétés par eux-mêmes. Et parmi les versets qui sont muhkam, explicites, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne avec Allah. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Et celui qui invoque avec Allah une autre divinité, il n'a aucun argument pour cela. إِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Son jugement incombe à son Seigneur. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Les mécréants ne réussiront pas. Donc Allah Azza wa Jal les a appelés kafirun, ces gens-là. وَعَمَدْتَ إِلَى الْمُتَشَابِهِ. Tu as délaissé ces versets pour aller prendre des versets ambigus. إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Certes, les alliés d'Allah n'ont rien à craindre ni à être attristés. وَعَمَدْتَ إِلَى الْمُتَشَابِهِ. Tu as délaissé les versets clairs pour ceux qui sont ambigus pour nous, pas pour les gens qui connaissent. وَهُوَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ. Que l'intercession est vraie. وَتَرَكْتَ الْمُحْكَمَ. Tu as pris les versets où Allah parle de l'intercession, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni utaitu shafa'a » on m'a donné l'intercession, pour aller lui demander au lieu de la demander à Allah. Et tu as délaissé des versets qui sont clairs. Par exemple, quand Allah azza wa jalla dit « Amittakhadhu min dunillahi shufa'a » ont-ils pris des intercesseurs en dehors d'Allah ?« Qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun » dit « L'ont-ils fait même si cela, ces divinités, ne possèdent rien, ni ne raisonnent ?» قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dis, à Allah tout entière appartient à l'intercession. Tu délaisses ça pour aller prendre des textes qui te sont ambigus. Ensuite, tu as vu que les polythéistes reconnaissent la seigneurie d'Allah. Ils n'ont pas discuté. la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Mohamed ibn Ibrahim dit: wa tubayyinu lahu anna ad-da'iya 'abd al-qadir mathalan yad'i annahu dhu makanatin wa anta muqirrun bir-rububiyyah والمشركون الأولون مقرون بالربوبية ولا نفعهم وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Tu montres à celui qui invoque autre qu'Allah, comme par exemple celui qui invoque Abdul Qadir. Et Abdul Qadir, c'est un homme que l'on appelle Abdul Qadir al-Jilani. Et c'est un savant, un homme pieux, mais qui a été adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont été beaucoup de gens et avant eux les prophètes. Et le fait qu'ils soient adorés en dehors d'Allah ne veut pas dire que c'est qu'ils sont ceux qui ont appelé les gens à le faire, ou que ça justifie qu'il est bon de le faire. Ibn Taymiyyah rahimahullah lui-même a dit dans certains de ses ouvrages: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ نَاسًا دَعَوْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ. Il m'est parvenu que des gens m'ont invoqué en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Ibn Taymiyyah, qui est celui peut-être qui a combattu le plus le fait qu'on l'invoque ou qu'on invoque autre en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes, Nuh alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi salam, aujourd'hui est invoqué en dehors d'Allah, alors qu'il a combattu cela. Donc, celui qui invoque un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sous prétexte qu'il a une haute place, un haut rang chez Allah subhanahu wa ta'ala, tout en reconnaissant la seigneurie d'Allah, il dit: je sais qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul guérisseur, mais je me rapproche de telle créature car elle-même est proche d'Allah, elle va me rapprocher de lui. Eh bien, Allah azza wa jal, pour cette raison, a déclaré le peuple de Quraysh polythéiste. Donc c'est exactement la même chose que Quraysh, et cela, personne ne peut le réfuter ni cette argumentation. طيب. وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. Et ceci est clair et personne ne peut le discuter. كون الذين في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم وكون الأولين المشركين مدعوا فيهم الربوبية وإنزال المطر وأنهما كانوا مشركين كفارا إلا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم من الله زلفى هذان أمران محكمان. Deux choses ici qui sont claires. La première chose, ihtijajuhum bil mutashabih, le fait qu'ils argumentent par des choses qui sont ambiguës, en délaissant ce qui est clair. La deuxième chose, les polythéistes, autrefois, reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Et pourtant, Allah les a déclarés mécréants et polythéistes, associateurs. Et ils n'ont été associateurs et polythéistes que parce qu'ils ont demandé l'intercession autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est clair. Et parmi les choses qui sont claires également, le fait qu'Allah azza wa jal nous dise: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, en dehors d'Allah azza wa jal, ils disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit à la fin du verset? Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Donc Allah Azza wa Jalla a cité ces gens-là, a cité leurs ambiguïtés et a dit que malgré tout cela, ils ne sont pas croyants. Ils sont polythéistes, ils sont mushrikoun. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. Puis tu dis aux polythéistes que ce que vous évoquez, ô polythéistes, des textes du Coran et de la Sunna, échappe à ma compréhension. Mais j'affirme que les propos d'Allah Azza wa Jalla ne peuvent en aucun cas se contredire et que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent être différentes de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tu ne connais pas le sens ici. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les alliés d'Allah n'ont rien à craindre ni à être attristés. Tu ne connais pas le sens. Tu ne connais pas le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa a'titu ash-shafa'a, et on m'a donné l'intercession. C'est-à-dire tu ne connais pas ce qui est voulu correctement et complètement de ces versets. Walakin ayna dilalatuhu 'ala al-maqam ma dalla 'ala annahum yud'un. Mais où est-ce que ces versets ont prouvé en réalité que ces divinités peuvent être adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal? Moi, je ne comprends pas le verset. Mais Allah a interdit d'adorer autre que lui. Et je te demande à toi, où est-ce que ce verset prouve que parce qu'il est d'un haut rang, on peut l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal? Man arsalahum ila hadhihi daraja. Anta alladhi taqulu hadha. Qui leur a donné ce statut? C'est toi qui dis cela. Cela n'est pas le Coran ni la Sunna. Wa ana indi shay'un aqta'u bihi kashams min an-nusus. Et je connais des textes par lesquels je suis convaincu parmi les paroles d'Allah Azza wa Jal. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et les mosquées sont à Allah. Et les membres qui se prosternent sont uniquement à Allah. N'invoquez personne avec Allah. Moi, je suis sûr qu'Allah Azza wa Jal a dit « وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ » jusqu'à la fin du verset. Et quiconque invoque une autre divinité avec Allah n'aura aucun argument pour cela. Et certes, les mécréants ne réussiront pas. Ça, j'en suis sûr. Et je sais que ces versets et ces similaires ne se contredisent pas avec les autres que toi tu cites et qui pour moi sont ambigus et dont je ne connais pas le sens ou l'essence détaillée. Donc voilà ce que je vous résumais de ce que dit ici le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Et s'il prétend que les versets se contredisent, il sort de l'islam. Et s'il prétend que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en concordance avec le Coran, il sort de l'islam aussi. Wa hadha jawabun jayyidun sadid walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah ta'ala fala tastahim bih fa'innahu kama qala ta'ala wama yulaqqaha illa alladhina sabaru wama yulaqqaha illa dhu hadhin 'azim. Il dit rahimahullah: et ceci est une réponse bonne et correcte, mais elle n'est comprise que par celui à qui Allah aura accordé son aide. Ne la méprise donc pas, ne méprise pas cette réponse. Car comme Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, mais cela n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب المجمل وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشبه. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah, dit: l'auteur ici a fait les éloges de cette façon de répondre, car c'est une base fondamentale pour réfuter les ambiguïtés. فإنه نظير الخصلة أو الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن كما قال تعالى وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. أي كما لا يلقاها الدفع بالتي هي أحسن فلا يلقاها الجواب السديد إلا الذين صبروا إلى آخر الآية. فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة فإنك إذا وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم. Le verset qui a été cité nous parle depuis le début du verset, de repousser le mal par la bonne façon. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ. Et le bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Repousse par ce qu'il y a de meilleur. On vient, on te fait un mal. Tu as deux choix. Soit tu te rabaisses au niveau de la personne qui agit de cette manière idiote et qui manque d'intelligence, ou alors tu repousses par la meilleure, par le bon khuluq, par le bon comportement, par la sagesse. Ces deux choses-là ne sont pas pareilles. Puis à la fin, Allah Azza wa Jalla a dit, mais ce, dans le sens du verset, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Seuls ceux qui sont patients et endurants vont repousser le mal par la meilleure des manières. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. L'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab veut nous dire, tout comme ces gens-là qui savent repousser le mal par le bon khuluq, le bon comportement, ont reçu un privilège que seuls les gens endurants ont pu avoir, eh bien ceux qui ont cette réponse globale en disant « je ne connais pas le sens de ce verset, mais je sais de manière sûre et certaine que telle et telle chose sont interdites », eh bien ils ont eux aussi reçu une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فصار هذا الجواب عن هذه الشبه جوابا مركبا من ثلاثة أمور. Et là, la réponse à ces ambiguïtés sera composée de trois choses. La première, بيان أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. Le premier point que tu auras cité dans cette réponse globale, tu auras mis l'accent sur le fait que les gens dont les cœurs dévient, délaissent les paroles claires et se précipitent vers les paroles ambiguës. La deuxième chose que tu auras citée dans cette réponse globale, c'est que les premiers, al-awwalun, muqirruna bil-rububiyya, lam yunazi'u fiha, wa annahum madda'u illa mithla madda'a bihi al-mushabbihu min talab al-shafa'ati wal-qurbi ila Allah bidhalik, wa anna Allah kaffarahum bidhalik. Que tout comme vous, les polythéistes de cette époque, dites que vous reconnaissez qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, le seul pourvoyeur, subhanahu wa ta'ala, eh bien eux aussi, dans le Coran, eux aussi reconnaissaient cela, et ils ont fait la même chose que vous, ils ont pris des intermédiaires, des intercesseurs, ils ont été jugés comme tels par Allah, comme étant polythéistes. Thalithan, troisième chose que tu auras cité dans cette argumentation globale, j'ai avec moi des textes qui ne sont pas contradictoires et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne contredit pas le Coran. Et que le suiveur du faux prend des versets pour argumenter qui sont vrais mais qui ne veulent pas dire ce que lui a cru, ou alors ce que lui veut faire croire aux gens. Donc cette argumentation est magnifique et elle est une grande base pour repousser toutes les ambiguïtés dans le shirk et dans la bid'a aussi. On s'arrête ici et on entre dans les détails à la prochaine assise, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.